À voix nue, Caroline Brouet, cette semaine je reçois
Noël Ehrenschmidt, aquarelliste reporter.
Deuxième épisode, plongée dans le monde judiciaire. Bonsoir Noël Ehrenschmidt.
Bonsoir.
Alors aujourd'hui, on va parler des procès. On va parler de la dessinatrice d'audience que vous avez été, même si nous garderons le dernier procès auquel vous avez assisté, le procès des attentats du 13 novembre 2015, pour la dernière. Nous allons parler du monde judiciaire que vous avez découvert, que vous avez croqué dans toutes ses dimensions. Vous le disiez hier, en fin de notre premier entretien, tout a commencé en 1987, quand pour le journal La Croix, vous êtes parti à Lyon pour couvrir le procès Barbie. Alors Barbie, c'est Klaus Barbie, c'était un officier nazi qui fut le chef de la Gestapo lyonnaise, je dis ça pour les plus jeunes de nos auditeurs. C'était aussi le premier procès en France pour crimes contre l'humanité. Ce fut un procès à la fois retentissant et essentiel. Vous saviez où vous mettiez les pieds quand vous y alliez ?
Pas du tout. Comme d'habitude, ça c'est vraiment ma caractéristique, je ne me documente jamais. Je ne sais pas si c'est bien ou mal, mais moi j'y vais, j'avise. Voilà, j'y vais, j'avise, c'est ma théorie. Et puis, une fois que je suis dedans, eh ben, faut que je fasse avec, et les choses se font naturellement. Je suis partie en ne sachant rien de la justice. La seule chose que je savais, c'est mon papier Bristol A4 et mes plumes d'encre de Chine.
Vous ne saviez rien de la justice, pardon de vous interrompre, mais saviez-vous des choses sur Barbie ? Vous êtes née en
40. Je ne connaissais rien à rien. C'est pas compliqué. Donc j'y allais très détendue. Quand je pars dans des procès comme pour... vous me parliez de Calcutta. Comme je connaissais rien à rien, j'y vais détendue. Je ne m'inquiète pas à l'avance. Au contraire, c'est formidable de ne pas savoir. J'aviserai sur place. J'avise sur place. Là, je travaillais quand même. J'étais installée dans des conditions assez précaires. Faut être honnête. J'avais une chambre qui devait mesurer... qui avait la taille du lit. J'avais pas un sou. Mais j'y étais. Donc, je me vois encore le premier jour en me disant, ma vieille, tu vois, on t'a donné une petite mallette avec tous les documents dedans. Tu y es, tu rêves. J'étais dans un état de bonheur total, ne sachant pas ce qu'allait se passer. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans ce procès, nous n'avions pas, nous les dessinateurs, de place définie. Il y avait énormément de dessinateurs, des dessinateurs américains, des dessinateurs anglais, très très forts. Il y avait le dessinateur du Monde. Tous les journaux, par exemple, de province avaient leur dessinateur. Il y avait 20 dessinateurs.
Toute la profession était là. Vous avez pris conscience de l'importance
exactement
du procès.
Et puis surtout du professionnalisme des dessinateurs. Je me souviendrai toujours de ces Américains et de ces Anglais. D'ailleurs, ils continuent de dessiner avec la même technique. Ils dessinent sur des papiers au pastel, sur des papiers de couleur, sur des papiers beige. Eh bien, quand je suis allée à Washington, c'était la même chose, c'était la même technique. Et donc, je bavais d'envie en disant, tu vois un peu ce qu'ils font, et toi, qu'est-ce que tu vas faire ? Bonne question. Je ne savais même pas ce que j'avais faire. En tout cas, je savais que j'étais incapable de faire un décor à la plume. Donc, je savais d'emblée que j'allais me focaliser sur les visages.
Et c'est Pierre Truche, le procureur de l'époque, qui vous a quand même ouvert les portes de la connaissance du monde judiciaire, parce que vous le dites, vous n'y connaissiez rien. Il a quand même bien fallu qu'il vous donne une leçon de droit.
Mais ça a été exceptionnel. Je me vois encore, du fait qu'on n'avait pas de place définie, on bougeait. Je me vois encore à côté de Pierre Truche. J'avais déjà fait des dessins, et honnêtement, mes dessins, quand je les revois, ils étaient costauds, ils étaient exactement ce que je voulais. Ils exprimaient totalement ce que nous vivions, qui était absolument terrifiant. Et cet homme a pris à jeter un regard bienveillant sur la dame et sur les dessins. Et ce que je trouve inouï, c'est qu'il m'a donné en direct mes premiers cours de droit. Moi, j'aime pas le différé, j'aime le direct. Là, j'étais servie. Il m'a appris ce que c'était que la cour, pourquoi la cour était là, pourquoi l'accusé est là, et les avocats. Il m'a totalement raconté ce que je dessinais. Quelle chance inouïe. Et on s'est formidablement bien entendu, puisque je me souviens de jours où les victimes venaient raconter ce qu'elles avaient vécu il y a 30 ans.
Faut pas oublier. C'était la première fois qu'on entendait la parole des victimes. Hein.
Exactement, et c'est ça qui était inouï.
Contenu depuis 40 ans.
Exactement, c'est ça qui était inouï. Ces hommes, ces femmes venaient raconter en direct ce qu'ils avaient vécu il y a des années et dans l'état où ils étaient. Et ce qui m'a déjà frappé, c'est de voir que ces femmes venaient habillées en dimanche. les ongles faits, bien coiffés. C'est-à-dire qu'on ne va pas déposer dans son état de tous les jours. Je me souviens de ces femmes dont l'une avait le visage totalement déformé par les tortures qu'elle avait vécues, parce que là, on racontait les tortures en détail. Mais faut pas oublier que Barbie n'était plus là. Au bout de 2 jours, il a dit qu'il n'assisterait plus au procès. Donc, ça peut-être était un bien, j'en sais rien, mais en tout cas, il a disparu longuement. Voilà. Et je vois encore ces femmes accrochées à la barre, le visage complètement abîmé, les ongles faits, coiffées droites comme des i, crachant littéralement ce qu'elles avaient vécu, ce que j'avais jamais pu dire. Et alors là, je me suis aperçue d'une chose que j'ai toujours constatée, c'est que le dessin vient tout seul. Je me suis aperçue que j'étais tellement faite pour ça, c'est que plus le dessin, plus ce que j'entendais était fort, plus le dessin l'exprimait. Très souvent, j'ai fait un premier dessin quand le témoin ou la témoin arrivait à la barre. Donc un dessin debout, assez figé. Et puis un autre dessin en plein milieu de la déposition. Et à ce moment-là, vous avez le passage entre l'action et l'émotion. Et ça, j'ai fait que ça pendant 2 mois. J'en ai un souvenir inouï. Et j'ai commencé à mettre des phrases sous les dessins. On tue un homme quand on lui apprend qu'il va mourir. Qu'est-ce qui m'a dit ça? Je ne sais pas. Mais je vois encore ces phrases que j'ai commencé à écrire. J'ai été portée littéralement par le sujet. Et surtout, quelque chose d'essentiel, j'ai découvert ce que j'ai appris toute ma vie. C'est que même le pire des terreurs, comme l'était Barbie, peut quelquefois, dans certains cas, laisser paraître une partie d'humanité.
C'est-à-dire que vous avez saisi. Vous avez saisi. On a un dessin comme ça, d'une émotion sur le visage de Barbie.
J'étais à côté de lui, puisque qu'on a mis place. J'étais vraiment à la distance où nous sommes. Tout à coup, Pierre Truche se lève avec cette voix de stentor, cette crinière blanche, et lui parle. Que direz-vous quand vos enfants, je ne me souviens plus exactement ce qu'il a dit, mais il parlait des enfants de Barbie. Et je vois Barbie changer de visage. Je le croque en 3 secondes. C'est une image laquelle je tiens. Personne ne pourra me dire que cet homme-là n'a pas laissé passer une part de son humanité. Et ça m'a servi toute ma vie. Derrière l'accusé, il y a un homme. Quelquefois, il ne le montrera jamais. Il se planquera, il arrivera à fermer la porte. Mais en tout cas, elle existe au fond. Chaque être humain est double.
Est-ce que quand vous dessinez, puisque maintenant on peut le regarder avec un regard rétrospectif, est-ce que justement quand vous dessinez une émotion qui transparaît sur le visage d'un accusé aussi monstrueux soit-il, Noël Reinschmidt, vous dessinez cette émotion de la même façon que la victime qui a parlé avant? Autrement dit, est-ce que vous dessinez ce que vous voyez qu'il se passe ou ce que vous ressentez? Jugement, pas jugement, c'est autre chose.
D'abord, je ne juge jamais, mais je dessine, comment vous dire, d'emblée, je ne réfléchis pas quand je dessine. C'est fini. Je me laisse totalement aller. Qui que ce soit et quoi que je dessine, et qui que ce soit, il n'y a pas de différence. Que ce soit, ça a été vrai dans le dernier procès. Justement, il ne faut surtout pas essayer de faire des quartiers. On est dans l'émotion, on l'en prend plein la gueule, on la ressort telle qu'on l'a ressentie, point. Il y a pas, là, quand je dis qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite à ce qu'on peut entendre, pas de limite à ce qu'on peut dessiner, pas de limite à ce qu'on peut ressentir. Mais alors là, c'est une chose que j'ai apprise d'emblée. Et c'est vrai que quelquefois, je me souviens, cette salle d'audience, qui était donc la salle des pas perdus du Palais de justice de Lyon, était pleine des larmes de tout le monde. Et alors on pleure ou on ne pleure pas. Quand on dessine, on ne pleure pas. Mais à l'intérieur, on pleure. Et alors, on dessine et on pleure. Ça, c'est pas un problème. Il n'y a jamais trop.
En 1994, vous avez suivi le procès Touvier. Touvier, c'était le chef de la milice de Lyon. Ce procès était à Versailles. C'était pour la Croix. Puis, vous avez suivi et couvert celui de Maurice Papon à Bordeaux. Maurice Papon, haut fonctionnaire collaborationniste, secrétaire général de la préfecture de Gironde, entre 1942 et 1944, il a été condamné pour complicité de crimes contre l'humanité, parce que On l'a jugé responsable de déportation de juifs de la région bordelaise vers le camp de Drancy, d'où ils ont ensuite été acheminés vers le camp d'extermination d'Auschwitz. Et ça, vous l'avez fait pour Le Monde, Noël Ehrenschmidt. Le procès Papon, c'est déjà un procès hors norme. C'est un procès qui a duré 6 mois, entre octobre 97 et avril 98. De quoi vous souvenez-vous lors de ce procès ?
C'est un souvenir inouï. Là, j'étais totalement dans l'aquarelle. Je possédais mon aquarelle, totalement. Je travaillais sur A3, c'est-à-dire un bon format. J'étais envoyée par Le Monde, donc dans des conditions financières totalement semblables aux autres journalistes du Monde.
Ni mieux ni moins bien.
Parfaitement bien. Bon, on vivait dans un appartement, j'avais une chambre, point. Mais alors, j'ai vécu ce procès, mais du matin au soir. J'arrivais la première au procès, je partais la dernière. Les week-ends, je revenais à la maison, imaginez-vous que j'étais ailleurs. J'ai vécu ce procès, comme je l'ai fait récemment, mais 24 heures sur 24. En n'étant jamais là, c'est surtout en ayant la chance d'avoir rencontré le président Castagnède, qui était le président du tribunal, qui m'a laissé faire absolument tout ce que je voulais. Au début, il y avait beaucoup de dessinateurs. Après, il y avait deux dessinateurs, Rhys et moi. Totalement différents. Et ils faisaient des dessins absolument formidables. Et j'avais le président, puisqu'on me voyait tous les jours, j'étais là du matin au soir. « Oh, président, est-ce que vous accepteriez que je dessine derrière vous ? Je m'installe derrière vous, derrière la cour. Pas de problème, je me mets derrière le président, derrière la cour. » Et à ce moment-là, ce jour-là, j'oublie de prendre mon pinceau. Donc je repars discrètement de là où j'étais. Je vais chercher dans la boutique à côté du palais un pinceau. Je viens, je me rassieds et je dessine. Et puis, est-ce que je pourrais dessiner les jurés ? Pas de problème, vous ne leur parlez pas, mais vous pouvez dessiner les jurés. Et puis, est-ce que je pourrais avoir une échelle pour montrer, pour faire une contre-plongée pour la salle des pas perdus qui est magnifique. Il n'y a pas de problème, vous pouvez. J'ai été autorisée à faire tout de haut en bas dans ce palais. J'étais totalement chez moi. Et d'ailleurs, c'est drôle ce que je vous dis, mais quand je suis dans un lieu comme ça, ce lieu devient le mien. Je suis totalement dedans, mais jusqu'au cou. Et je ne me souviens pas avoir trouvé que c'était trop long, que c'était fatigant. Je m'en fous complètement. Je suis dedans. Et je suis parfaitement à ma place. Et j'ai pu faire un dessin. On parlait du fait qu'il y ait deux personnages dans la même personne, mais je me souviens qu'on m'autorise à aller dessiner Papon après une audience. J'arrive, Papon était en train de lire un journal, je ne sais pas si c'était Le Monde avec mes dessins, mais enfin il lisait ça. Il avait à côté de lui une tasse de thé sur un petit guéridon façon Louis XV, on se serait cru dans un boudoir. J'arrive, je le salue, vous pensez bien que quand on est l'un à côté de l'autre pendant autant de temps, on se salue, et puis je le dessine, voilà un dessin auquel je tiens énormément, très à l'aise, parce que lui, il a été à l'aise tel qu'il était du début à la fin. Je n'ai jamais trouvé de changement sur son visage. Mais ce grand bourgeois, les jambes croisées avec son thé et son journal, et je le félicite sur sa chemise rose. Une chemise rose, c'est valorisant pour le dessin. Il me dit « Cyclamène », ce qui était pour moi le comble du raffinement et qui dépeignait totalement la personne, ce qu'il avait envie de montrer. Il n'a jamais eu envie, en tout cas, de montrer autre chose que ce qu'il paraissait.
Et ce dessin, avec tous les autres, Noël Ehrenschmidt, on peut le voir dans le livre que vous avez publié, qui rassemble les trois procès.
Oui, qui est Mémoire de justice, que j'ai fait avec Maître Zawi, qui lui aussi avait été dans ces trois procès et qui dit des choses extrêmement intéressantes sur ces trois procès. Mais c'est vrai que le procès Papon, dans la mesure où j'ai été dessinée aussi dans la ville, j'ai dessiné énormément Juliette, la belle Juliette qui parlait, alors là, qui était face à Papon, et c'était vraiment, elle regardait dans les yeux, comme je disais, habillée, coiffée magnifiquement bien, et c'était vraiment une bataille de regard dont elle était toujours gagnante. C'est un personnage très fort, il faut voir ce que ça a été, que c'est déroulé, parce que là, il y en a eu aussi énormément. J'étais totalement à mon affaire. Et puis, surtout, j'ai même dessiné à côté de Zawi, c'est-à-dire que le président m'a permis de dessiner sur le rang, au milieu des rangs des avocats. J'étais d'un côté avec Zawi, de l'autre côté, je ne sais plus quel était le président, l'avocat, et j'ai pu dessiner surtout Klarsfeld, le jeune Klarsfeld. J'étais à 50 cm de lui. Et le lendemain, la critique a été mauvaise, et j'ai dit... Vous n'avez pas entendu la même chose que moi. J'ai entendu un Klarsfeld extrêmement émouvant, moi, alors que les critiques ont été dures. Donc, c'est toujours pareil pour les dessinateurs d'audience. Nous, on est face aux accusés, face aux avocats. On est au cœur du procès. C'est ça où je trouve que c'est inouï. Donc, moi, j'ai vu une autre image de la même personne.
Donc, l'idée, c'est vraiment de faire comprendre à l'extérieur ce que vous vivez à l'intérieur.
Et ça,
à
c'est...
tout point de vue.
Ah, mais c'est... pour moi, c'est un cadeau. Enfin, c'est un cadeau, c'est un métier formidable. Si justement, on veut bien se lâcher, c'est-à-dire se mettre de côté, nous, on est là pour voir, écouter, transmettre. On est dans la transmission, point. Quoi que ce soit, je le dis bien. Mais on est totalement au service de la parole et de l'image, puisque personne n'a le droit, personne n'avait le droit à l'époque d'entrer dans une salle d'audience, c'était filmé mais avec une caméra fixe, donc nous, on peut tourner autour et montrer toutes les facettes d'un procès pareil. J'ai été quelquefois au milieu des victimes, et puis au milieu des avocats, et puis tout à côté de Papon, c'est formidable. Donc pour moi, ça a été une expérience absolument formidable.
Oui, mais Noël Ehrenschmidt, vous dites que vous avez besoin de vous mettre à distance. Non seulement besoin, mais envie, puisque vous êtes dans les autres et vous dessinez ce que vous voyez, ce que vous ressentez. Vous êtes né quand même en avril 1940. Vous assistez à ces trois grands procès que sont le procès Barbie, le procès Touvier, le procès Papon. Vous les suivez entre 1987 et 1997. Est-ce que ça vous remue pas ? Peut-être plus que d'autres formes de procès. Est-ce que ça ne vous fait pas voir avec les yeux de l'adulte que vous étiez les années d'une enfance quand même marquée par la guerre ?
Ben oui, mais alors j'ai eu une enfance protégée de la guerre. Mon père est mort quand j'avais 4 ans. Mais j'ai été protégée, complètement protégée. J'ai pas souvenir, ma sœur me dit toujours qu'elle a eu froid pendant la guerre. Moi, j'ai pas eu froid, j'ai traversé ça simple. Mais au niveau des procès, ce qui est très important à dire aussi, c'est que là, vous aviez un énorme procès, comme vous dites, hors norme. Moi, je me souviens d'avoir assisté à des procès beaucoup plus petits et très émouvants, parce qu'un procès, ça renvoie aussi à ce que nous sommes, faut pas l'oublier. J'ai appris ça en prison, tout le monde peut tomber. Et je me souviens d'un procès de base en assise où j'étais assise à côté d'un dessinateur que je trouvais âgé, et à mon avis était plus jeune que moi, mais à l'époque je le trouvais un vieux dessinateur. C'était un procès pour un crime passionnel. Et je me tourne vers ce copain et je le vois qui pleure. Mais je lui dis, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Et il me dit, ça aurait pu être moi. Donc tous ces procès, qui soient énormes...
Que ce soit contre les crimes contre l'humanité...
Eh bien, quelque part, c'est une part qui peut nous bouleverser parce que ça nous renvoie à quelque chose de nous.
Dans les années 2000, vous avez couvert des procès très différents. Ni crime passionnel, ni crime contre l'humanité. Le procès du sang contaminé, le procès Dumas, le procès Clearstream, toujours pour Le Monde. Est-ce que ces procès vous ont marqué d'une façon ou d'une autre ?
Alors, le procès Clearstream m'a totalement marqué. C'était dans la salle qu'ils appellent actuellement la salle Marie-Antoinette, une petite salle, donc là où Marie-Antoinette a eu son procès, au Palais de justice de Paris. C'est une salle qui donne sur la salle des pas perdus. Et là, ce qui m'avait fasciné, c'est que j'ai découvert un Villepin double face.
Il faut peut-être rappeler un temps aussi pour les plus jeunes de nos auditeurs, et puis les moins jeunes, ce qu'était le procès Clearstream. L'affaire vient d'une dénonciation visant des personnalités politiques, dont Nicolas Sarkozy, censé détenir des comptes bancaires secrets à l'étranger, via une chambre de compensation luxembourgeoise du nom de Clearstream. Il y a eu une affaire 1, une affaire 2, et donc vous étiez au procès numéro 1.
Et alors, ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, là, c'est le double visage d'un homme politique. C'est-à-dire, vous aviez le Villepin à l'intérieur du procès. C'est toujours violent, les procès, on est à nu. On vous pose des questions, c'est extraordinairement déstabilisant. Donc, c'était un Villepin extrêmement poli, qui nous saluait, les dessinateurs, mais qui était tête penchée, qui était difficile. Et puis quand la même personne sortait du palais de justice, il se trouvait face au caméraman et au photographe, et alors il bombait du torse, ça revenait l'homme public. Il n'y avait pas de limite là. Et je me suis dit, nom d'un chien, là, tu es vraiment face au double visage d'une personne politique. Et c'est ça, ce double visage qui m'a fascinée et qui m'a donné envie d'entrer dans le monde politique.
Ce qu'on verra demain. Mais avant cela, il faut quand même qu'on termine sur le monde judiciaire, Noël Ehrenschmidt, puisqu'à côté de ces dessins d'audience que vous avez fait tout au long de ces années, vous vous êtes plongé dans un travail au long cours sur le monde judiciaire en lui-même, grâce à Pierre Truche, qui vous avait fait votre leçon de droit, dont le premier, en 1992, a donné lieu à une publication, la première d'une très longue série, hein, 3 ans plus tard, « Les carnets du palais ». Regard, au pluriel, sur le palais de justice de Paris, avec les textes d'Antoine Garapon. Et là, on y voit le devant et l'envers du décor judiciaire. Il y a les gens, il y a les lieux, il y a les mœurs du petit monde, il y a les moments, les situations, les ambiances. Commençons peut-être par la salle que vous aimez beaucoup, la salle des pas perdus du palais de justice.
Ça, c'était une chance inouïe. Pierre Truche, avec lequel j'avais eu ces liens tellement forts, arrive au palais de justice de Paris, dans la cour de cassation. Donc, je prends rendez-vous, je le retrouve comme si nous étions quittés la veille, je lui montre les dessins que j'avais faits pour le Vietnam, et il me dit, eh bien, on va faire la même chose pour le palais de justice. On part en reportage. Il ne me dit pas qu'il m'ouvrira les portes. Il me dit, en gros, à vous de jouer. J'ai passé 3 ans au palais de justice de Paris. Je l'ai vu de haut en bas. Donc cette salle des pas perdus, qui à l'époque était quand même encore habitée. Les avocats s'y retrouvaient, s'y asseyaient. Il y avait quelque chose qui se passait entre les gens. C'était à la fois l'histoire, la justice et l'actualité. Mais je ne peux pas vous dire à quel point j'ai aimé. J'ai dessiné les balayeurs, parce que s'il n'y a pas les balayeurs, ça ne tient pas. J'ai dessiné la cour de cassation dans sa splendeur, la cour d'appel.
Il y a beaucoup de choses. Hein, dans le... En fait, on ne soupçonne pas le nombre de choses qu'il y a au sein du palais de justice. Il y a aussi le dépôt.
Les archives.
Il y a même une communauté de religieuses au dépôt des femmes. Évidemment, les archives, la salle des scellés, le tribunal correctionnel, la cour d'assises, une salle de menuiserie, une poste, deux banques, un cabinet médical, etc., etc. Enfin, il y a beaucoup de choses. Vous êtes allé partout.
Mais j'étais partout et c'est ça que je trouve intéressant. Ce livre devient de l'archéologie. On est vraiment dans l'histoire puisqu'actuellement, en revenant dans ce même palais, je pense que les 2/3 de ce que j'ai dessiné n'existent plus. Et c'est ça qui m'a passionnée. Et surtout, j'ai commencé à me faire ouvrir les portes. Et quand je suis allée voir Pierre Truche, il était content de moi. J'avais prouvé que j'avais un bon fond. Et surtout, j'ai appris la base de tout mon métier, c'est qu'on doit être présente et transparente. C'est-à-dire qu'une reporter aquarelliste doit exister, mais elle ne doit pas être là pour être montrée. Elle est là pour dessiner et pour écouter.
Les carnets du palais, ce livre que j'évoquais, s'ouvre justement sur un dessin qui représente Pierre Truche, qui est donc alors procureur général près la cour de cassation. Vous vous souvenez de ce dessin et des circonstances dans lesquelles vous l'avez fait ?
Tout à fait. C'est-à-dire qu'on avait des liens d'une simplicité totale. Je le vois assis sous cette magnifique tapisserie. Je ne peux pas vous dire, on était totalement en phase.
En phase.
C'est-à-dire qu'avec son aide, tout m'a semblé simple, tout m'a semblé facile. Alors je ne me suis pas dit une seule fois, puisqu'on parle de ça, comment je vais faire. Non, je faisais. Et je savais que j'étais soutenue
par le procureur.
Par le procureur. J'étais donc petit à petit soutenue par toutes les personnes chez lesquelles j'allais. Et surtout, par exemple, pour les assises, j'ai eu la chance de suivre une session d'assises total, c'est-à-dire entre le début, quand le président va appeler les jurés et va leur dire qu'est-ce qu'ils ont à faire, j'ai dessiné les coulisses d'eux. Et ça, les coulisses d'eux, c'est formidable parce que ça humanise ce que les gens voient. Il y a ce que les gens voient et ce qui est vécu à l'avance. Et je pense que quand on montre ce qui est vécu à l'avance, c'est-à-dire les jurés les uns à côté des autres, entendant le président, aussi ignorant que je pouvais l'être à mes débuts, et qui vont devoir juger, c'est très difficile d'être juré. Et très souvent, les gens en sortent bouleversés. Donc là, on va suivre les gens j'allais dire, au centimètre près d'eux. Et j'ai dessiné là aussi les gendarmes. Dieu sait si j'ai une histoire passionnelle avec les gendarmes. C'est-à-dire que les gendarmes font complètement partie du palais. Donc, ce mélange de tous les niveaux de personnes, depuis le balayeur, je me souviens très, très, très bien de la postière. Et puis, ces murs, quand même, pénétrés d'histoire, est formidable à dessiner. Là, je me suis éclatée dans tous les sens du terme.
Reste les couloirs, les salles, les galeries, les statues, etc. Ça, c'est immuable, ça ne bouge pas. Et vous l'expliquiez, Noël Ehrenschmidt, à quel point vous revient la technique des dessins d'architecture, hein, grâce à l'école quand même. Donc là, on voit bien, hein, l'architecture, elle c'est très, très précis dans vos dessins. Juste pour terminer, à partir de 2004, vous avez entamé un tour des justices australiennes et américaines, puisque maintenant que vous savez tout sur tout de la justice française, maintenant que vous avez tout compris de la justice française, ça ne vous suffit pas, vous êtes allé voir un peu là-bas à quoi elle ressemblait. C'est très très différent
ce qui m'a frappé surtout, c'est la simplicité de tous les présidents. C'est-à-dire que nous, mon mari et moi, il ne faut pas oublier que mon mari m'a accompagnée dans toutes ces aventures. Là, je ne pouvais absolument pas faire ça seule. Et c'est Antoine qui nous avait emmenés dans cette aventure.
Antoine Garapon.
Mais les présidents, comment vous dire, on avait donc un bureau pour nous. Tous les matins, il y avait des fleurs. On nous appelait Noël, Jean-Claude par notre prénom. Il y avait une espèce de simplicité qui n'existe pas en France. Mais ce n'est pas pour autant que. Simplement, c'est une autre façon d'être. Et puis alors, en Australie, j'ai vu dans les salles d'audience, par exemple, pendant les interruptions, vous aviez la possibilité d'avoir du café, d'avoir de quoi manger. Il y a une simplicité de choses qui n'existent pas. Mais j'ai aussi aux États-Unis, là, dans les mêmes années, j'ai commencé à aller aux États-Unis et j'ai vu aussi aux États-Unis ce qui pouvait être le plus douloureux, terrible maison dans lequel la plupart des accusés étaient des accusés de couleur et les présidents étaient tous des personnes blanches. Et il y avait là une espèce de friction entre les deux mondes qui était pour moi bouleversante. Donc j'ai vu aussi très très tôt ce qu'il y avait de plus difficile. Et bien après, j'ai vu au contraire à Boston ce qu'il y avait de plus inouï dans ce que pouvait être la justice américaine.
C'est cette plongée au long cours, hein, dans le monde judiciaire et peut-être même le livre « Les carnets du palais ». Ont ouvert la voie, ouvert des portes, puisque c'est quand même votre truc d'ouvrir des portes, Noël Ehrenschmidt, ont déclenché, disons, d'autres reportages dans des institutions, d'autres carnets de prison, carnets de gendarmerie, etc., puisqu'il y a eu l'hôpital, le monde politique, les institutions républicaines. Et nous verrons ça demain, si vous le voulez bien. Bonne soirée à vous.
Merci.
C'était À Voix Nue, chargée de programme Daphné Abgral, prise de son Alexandre Martin, réalisation Jean-Philippe Navarre, une série de Caroline Brouet à réécouter et à podcaster sur le site de France Culture et l'application Radio France.